are just going up. Oh me, oh my, won't you look at my eyes? We laugh or cry just to feel alive. Oh, no time for living a lie. Oh, time flies, so don't blink twice. Tried everything I thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
Vous l'avez peut-être vu dans le jury de Danse avec les Stars sur TF1. On a interviewé François Allu, danseur étoile, qui a pas mal fait parler de lui, notamment pour avoir quitté l'Opéra de Paris pour se consacrer à ses propres projets, comme son spectacle Complètement Jeté, où il mêle humour, danse et théâtre. Originaire du Cher à l'origine et pas du tout de la capitale, il nous l'a confié, ses débuts dans la danse n'ont pas été des plus faciles.
Alors les débuts, ils ont été très mouvementés parce que donc j'ai dû quitter ma famille à laquelle je suis très attaché. J'avais 9 ans et demi quand j'ai quitté le berceau familial, mon petit berceau à Fussy dans la région centre, pour monter dans la capitale. Et c'est vrai que c'était un déchirement. Et en même temps, j'étais hyper exalté d'aller à l'aventure et de pouvoir aller apprendre mon nouveau métier, de devenir un artiste. Après, je savais pas qui m'attendait tout ça, tous ces rebondissements. Et puis, c'est l'école de danse de l'Opéra Paris, c'est une école qui est très, très difficile, hein, parce qu'on commence le matin. En fait, on a les cours de 8h à midi. Et ensuite, l'après-midi, on travaille de 13h30 jusqu'à 18h30, 19h, je crois, avec des cours de danse, des cours de musique, des cours d'histoire de la danse, des cours de folklore, enfin des cours de mime. C'était très varié. Et pour un enfant hyperactif comme moi, c'est vrai que à la fin des journées, je dormais bien.
C'est tôt quand même, non, 9 ans et demi pour quitter le nid familial?
Absolument. En fait, c'était très étrange parce que je me rappelle de moments très difficiles où j'appelais ma mère au téléphone, où je pleurais et elle me disait, mais si tu veux, tu peux rentrer. Je lui disais, non, je vais rester, alors que il y a une part de moi qui était en souffrance totale. Mais il y avait un appel, je pourrais même pas l'expliquer, une sorte de foi en l'art quelque part, et qui me faisait tenir en fait. Et c'était ma voie et j'ai suivi. C'était quelque chose qui était plus fort que l'amour que j'avais pour mes parents et pour mon frère, alors que c'était la chose la plus grande auparavant. Donc c'était quelque chose d'un peu mystique comme ça. Mais aujourd'hui, je suis ravi parce qu'évidemment il y a eu des grands moments de souffrance, mais j'ai vécu des choses exceptionnelles aussi. C'est grâce à l'Opéra de Paris ensuite que j'ai pu aller danser dans le monde entier. On est allé au Japon, on est allé en Amérique, en Australie, en Amérique du Sud. J'ai fait des rencontres incroyables, dont celle avec Samuel Mures, qui est le co-auteur de ce spectacle Complètement Jeté, qui a changé ma vie en fait par la suite, quoi. Donc vraiment, c'était assez incroyable. Et puis l'Opéra de Paris, ça m'a permis aussi de rencontrer des corps de métier fabuleux, parce qu'à la fois il y avait des gens qui faisaient des décors, des costumes, des machinistes, des administrateurs, des producteurs, enfin vraiment ça fourmillait. Puis évidemment tous les danseurs qui sont incroyables, les chorégraphes, hein, des chefs d'orchestre, c'est très fourni. Et c'est une chance inouïe que j'ai eue de pouvoir vivre tout ça, et aujourd'hui ça me rend très heureux.
Vous avez fait l'école de l'Opéra de Paris et vous avez intégré ensuite la compagnie de l'Opéra de Paris, c'est cela ?
Exactement, je suis rentré dans la compagnie de l'Opéra de Paris à 16 ans et demi, exactement. C'est relativement tôt, parce que moi, j'ai pas passé mon bac, en fait. Il faut savoir que je... Alors, certains continuent les études par la suite. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était arrêter l'école à tout prix pour pouvoir ne faire que de la danse, parce que déjà, quand j'étais à l'école de danse, je ne faisais que danser. Même les week-ends, ma mère me disait « T'as bien fait tes devoirs ?» Je dis « Oui, oui », alors que c'était pas vrai. Et puis parfois elle me disait mais sors, va voir tes amis. Et je lui dis mais non, tu sais, je préfère être dans le studio de danse quoi. Et vraiment j'étais passionné quoi. J'ai dévalisé vraiment YouTube. Je connaissais toutes les vidéos par cœur, même les documentaires. Je connaissais les répliques. Enfin j'étais un obsessionnel en fait de danse quoi. Vraiment j'étais happé par ça. Et j'avais un besoin immense de me dépenser. Mais surtout de danser. Il faut savoir que dans les supermarchés, quand je faisais les courses avec mes parents, même plus jeunes, dans les allées entre les haricots et les petits pois, je faisais des tours en l'air, des pirouettes, avec mes parents qui me disaient « arrête, s'il te plaît, arrête ».
De la danse, mais aussi du cinéma et de la télévision avec Danse avec les stars, quel est l'exercice que vous préférez ?
Je crois que ce qui me plaît fondamentalement, en fait, c'est d'incarner des personnages et de raconter des histoires, de créer. En fait, plus globalement, c'est d'être dans des instants de création intense. Des moments où je suis en collaboration et où je vais être par exemple je pense à Samuel Mures quand on est tous les deux et qu'on est en train d'écrire ensemble et qu'on rigole ou qu'on se dit ah tiens j'ai une super idée il va se passer ça, enfin c'est le fait de d'alimenter la créativité par quelque chose. En l'occurrence au début c'était la danse principalement, mais comme vous le disiez j'ai eu la chance de pouvoir jouer un petit rôle au cinéma pour Andrea Bescon et Éric Métayer dans leur futur film qui j'espère sortira prochainement. Et puis j'ai moi-même en fait pendant le confinement écrit deux films qui ont été diffusés ensuite sur Culture Box, un avec Kamel Menour qui est un galeriste à Paris et un autre que j'ai vraiment produit de A à Z qui s'appelait L'Échappée et La Source, et j'ai adoré en fait le côté narratif, la réalisation, le fait de m'intéresser à l'image, aux couleurs, aux lumières, aux axes, enfin en fait c'est le fait de pouvoir plonger un spectateur ou un téléspectateur dans un autre univers qu'une routine quotidienne. En fait, ça, c'est vraiment mon objectif. Et je crois que, en fait, c'est vraiment lié à mon hypersensibilité. Au début, c'était assez pathologique. C'est-à-dire qu'en cours, en scolarité, je posais des questions qui n'avaient pour tout le monde absolument rien à voir. Et tout le monde me disait, mais il est idiot, mais il est débile, mais il est bizarre. Enfin, j'avais un peu ce côté-là. Et pendant longtemps, ça m'a peiné. Et suite à une longue thérapie de 7 ans avec une psychologue, et ben j'ai compris déjà d'où ça venait cette hypersensibilité et les pouvoirs entre guillemets, les pouvoirs et les faiblesses que ça a apporté. Et je me suis dit vraiment voilà, il faut essayer d'en faire bon usage et en fait le pouvoir que ça apporte, c'est qu'on a une limite qui est hyper poreuse en fait entre le monde de l'inconscient et le monde du conscient. Et donc les informations passent très très vite, très rapidement et il y a des choses complètement incongrues qui sortent, mais justement quand on est en scolarité ou si je travaille dans un bureau dans une banque par exemple, et que je faisais le type de réflexion que je fais, je pense que je serais rapidement renvoyé. Mais en revanche, en tant qu'artiste et en tant que créateur, je pense que justement, c'est ce qu'on vient voir, parce que finalement, quand on va au théâtre, c'est un endroit où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est des choses qui n'ont pas lieu normalement dans la vie de tous les jours, ou des scènes qui sont un peu étranges ou dérangeantes. Et là, on les met justement en exergue sur la scène. Et ça me plaît beaucoup parce que les personnes dont je fais partie aussi hein, en tant que spectateur, on ressort et on est bouleversé, on se sent vibrant. Et je pense que c'est ça le propre de la vie en fait, c'est d'avoir des émotions aussi très fortes. Et j'aime être un procurateur d'émotions, voilà.
Est-ce que cela vous a apporté quelque chose de participer à Danse avec les stars ?
Ah, bah absolument, parce qu'en fait Danse avec les stars, donc c'était les premiers moments où moi j'avais déjà fait un petit peu de télé, quelques interviews, mais là c'est vrai que c'est quand même des millions de téléspectateurs qui nous regardent chaque soir. C'était pas forcément ce même public en fait qui venait voir les spectacles dans lesquels je jouais, donc je suis content d'être allé à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux spectateurs, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu je me rappelle les trois jeunes filles qui sont venues à Paris après mon spectacle au Trianon, et elles m'ont dit bah écoute, on n'était jamais allé voir de spectacle comme ça, et ça nous a vraiment beaucoup plu, ça nous a séduit, et merci en fait, parce que si t'étais pas venu sur Danse avec les stars, on serait pas venu non plus, et je suis content parce que c'était un peu le moteur de pourquoi j'ai fait cette émission. Je me suis dit ce serait génial d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Et puis c'est vrai que, pour être très honnête, j'étais pas forcément très épanoui juste avant de faire Danse avec les Stars. C'était un moment un petit peu compliqué pour moi pour plein de raisons. Et j'avais lu dans un livre une phrase que j'avais adorée qui disait « Pour être là où tu n'es pas, il faut emprunter la voie dans laquelle tu n'es pas ». Et auparavant, jamais, je pense que si on m'avait proposé de faire Danse avec les Stars quand j'étais pleinement à l'opéra, à 100% là-dedans, je pense que j'aurais décliné la proposition parce que j'étais, encore une fois, obsessionnel et peut-être trop enfermé dans une vision. Et là, je suis content de m'être ouvert parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait rencontrer de très belles personnes. J'ai pu apprendre, enfin, et travailler sur ce nouvel exercice qui est être juré, mais à la télé. J'avais déjà fait juré à l'Opéra de Paris en tant que membre pour le concours interne et concours externe. Mais là, c'est vrai que c'est pas pareil, parce qu'on doit faire des commentaires relativement concis. Il y a quand même du jeu, de la tension et tout ça. Donc c'était un bel exercice et puis très intéressant de voir tous ces corps de métier aussi qui s'activent dans la télévision. Le premier assistant, le technicien, les danseurs, le fait de d'enregistrer, d'empexer des choses avant, de les diffuser après, de voir la gestion du public en direct aussi. Enfin, c'est vraiment très très intéressant.
Parlez-nous de votre spectacle complètement jeté, donc votre premier seul en scène qui mélange plein de styles différents apparemment.
Alors c'est assez marrant parce que quand mon attaché de presse est venu le voir pour la première fois, il a dit mais en fait ça n'existe pas, c'est du dance-up en référence au stand-up et au stand-up dansé finalement. Et je crois que c'est un petit peu ça. C'est un moment qui est assez intense. Je crois que ça représente un peu ma vision du monde finalement, c'est-à-dire c'est très compact, c'est très dense avec un E et avec un A. Il y a 15 variations de danse, donc il y a du classique, il y a du contemporain, il y a un solo de hip-hop aussi où pendant une minute je me déchaîne et après je suis épuisé. C'est un moment que les gens aiment beaucoup, donc on le conserve dans le spectacle. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans ce spectacle, il y a aussi plein de personnages. C'est plein de personnages qu'il y a dans ma tête, réellement, des voix que j'entends, un peu comme Jeanne d'Arc. Hommage à Bourges, notre région centre. Et donc voilà. Et en fait, c'est un personnage que j'incarne, où il y a un peu de moi quand même dedans, même pas mal de moi. Et toutes ces voix, en fait, elles viennent bouleverser, elles viennent percuter comme ça le personnage. Alors évidemment, c'est très humoristique, mais il y a aussi des moments où de tension, en fait, où j'ai peur, où je suis en colère, où il y a de la rébellion. Et en fait, ce spectacle, on l'a vraiment créé avec Samuel Murez pour une raison. Enfin, moi, c'était essentiel pour moi. Je me suis dit, j'ai envie de me détacher du « quand dira-t-on ?». Étant danseur, c'est vraiment le propre de notre métier, c'est d'être regardé en permanence. Donc on se regarde aussi, nous, beaucoup dans le miroir. On se dit, est-ce que ma jambe elle a assez tendue, est-ce que mon pied a assez tendu, est-ce que mes cheveux, moi j'en ai plus, mais est-ce que mes cheveux sont bien coiffés, est-ce que j'ai un bon teint, est-ce que si... En fait, c'est un métier d'image. Et je me suis dit, mais c'est terrible, parce que ce métier d'image, en fait, il impacte beaucoup sur la vie de tous les jours, parce qu'en fait, on se regarde énormément le nombril et on est très sur nous. Et on est très vulnérable en fait à ce que va penser l'autre. Et je me suis dit vraiment, j'aimerais. Et puis je voyais autour de moi, dans mon entourage, pas que dans les danseurs, hein, mais dans d'autres êtres humains dont je suis proche, qui étaient très sensibles. En fait, on est tous assez sensibles à ce que pensent les gens de nous. Et je me suis dit, mais libérons-nous de tout ça, libérons-nous de ces chaînes et de ces limites qu'on s'impose nous-mêmes. Je serais jamais capable de faire ci, ça sera pas possible de faire ça. Non, mais ça, j'ai pas le droit. Et en fait, j'avais envie vraiment de me détacher de ces chaînes-là et de partager ça au plus grand nombre. Je voulais que ce spectacle soit vraiment universel, parce que c'est trop dommage de passer à côté de sa vie parfois. Et typiquement, ne serait-ce que l'exercice du seul en scène, moi j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça, d'être en scène, de parler, de raconter des histoires, mais je me disais, non mais de toute façon, toi t'es trop bête, t'es trop stupide, tu peux pas apprendre un texte, à l'école t'y arrivais pas, et puis tu sais pas bien écrire, et puis voilà. Et en fait, je me suis lancé ce challenge, ça a lieu pendant le confinement, en fait, vraiment avec Samuel, c'est là où on a commencé à écrire chacun de son côté, puis ensemble, et en fait on a vraiment fait ce spectacle à deux. Et c'est là où est né en fait ce tissu de paradoxe en fait qui nous compose, et de montrer que c'est ok finalement d'avoir toutes ces différences, et que c'est même intéressant, parce que ce qui nous différencie de la norme, de la doxa, et ben c'est ça qui va faire qu'on est unique, et comme on dit, ce qui est unique est cher. Et donc voilà, moi j'ai envie de prôner cette différence et de prôner cette liberté au maximum, et donc c'est comme ça qu'est né ce spectacle, qui est à la fois épuisant, parce que je me donne comme pas possible, à la fin je suis épuisé. On avait capté avec un capteur cardiaque qui faisait aussi le nombre de calories. Je brûle 1500 calories pendant le spectacle, donc c'est une heure et demie où ça n'arrête pas, où je danse, où je parle, où c'est vraiment très intense. Et en même temps, j'adore parce qu'il y a une vraie communion avec le public. C'est ce qui me manquait en fait auparavant, c'est qu'avant je dansais, mais j'avais envie d'une proximité encore plus forte. Pour moi, c'est hyper important le lien avec le public. Et je me suis dit, mais comment je peux faire, sachant que j'ai pas le droit de parler. Pour un moment, on s'est dit, mais bah tu sais quoi, on va le prendre ce droit de parler. Et donc maintenant, je peux directement m'adresser aux spectateurs et il y a un lien qui est très fort. Et puis il y a des choses qui se passent pendant le spectacle. Parfois, les gens parlent, je peux reprendre ce qu'ils disent sur leur rire. Enfin, il y a une vraie interaction, une vraie connexion. Et c'est pas juste l'interprète sur la scène et les gens qui regardent. C'est quelque chose où il y a une vraie communion et ça me plaît énormément.
Merci François Allu, danseur étoile.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment. C'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Les défis de la parentalité.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où l'on va parler parentalité, ce lien unissant un adulte et un enfant dans le but d'assurer l'éducation, le développement et le bien-être de ce dernier. L'épisode 1 est consacré à la question des enfants et des écrans. Pour en parler, nous avons interviewé Serge Tisseron, psychiatre et créateur des balises 36912. Bonne écoute.
Alors, donc du coup, cette question, pourquoi pas d'écran avant 3 ans?
Alors, à
avant 3 ans, l'enfant est en pleine construction de sa personnalité et de ses compétences motrices, ses compétences relationnelles, ses capacités d'attention et de concentration. Et donc, il est important que ces compétences puissent se construire dans la relation qu'il a avec les objets qui l'entourent, avec les humains qui l'entourent. Lorsqu'un enfant se trouve devant un écran, il ne manipule pas des objets, il ne transforme pas son environnement, il n'interagit pas avec un humain qui a un visage, des mimiques, des gestes, des attitudes, des échanges avec lui. Et donc, du coup, la construction de ses compétences s'en trouve gênée et retardée, et c'est comme ça qu'on peut voir chez des enfants qui passent beaucoup de temps dans les écrans, un retard global du développement. Alors, après, il faut relativiser l'importance des écrans, et vous comprenez bien que ce qui est important, c'est pas que l'enfant soit tenu à l'écart des écrans, c'est qu'il soit engagé dans des interactions, qu'il ait des jouets adaptés à son âge et qu'il ait surtout des partenaires, autres enfants, adolescents ou adultes, avec lesquels construire sa vie relationnelle.
Quand vous dites il est seul devant l'écran, il n'y a pas d'interaction. Justement, moi je me posais la question, si on regarde un film, un petit film adapté à l'enfant, je pense au film Disney, au film d'animation, mais avec son enfant, on est à côté de lui, on lui pose des questions, on essaye d'interagir avec lui pendant le film, pendant qu'il regarde. Est-ce que ça, c'est quand même nocif avant 3 ans ou c'est déjà mieux?
Ça n'est pas vraiment utile. Vous savez, ce qui est important pour un jeune enfant, c'est d'apprendre à déchiffrer les mimiques. Et apprendre à déchiffrer les mimiques, on ne le fait pas en regardant un film. Alors évidemment, il y a des dessins animés avec des personnages qui ont des mimiques, mais souvent ces mimiques sont très caricaturales, elles restent très peu de temps sur l'écran, elles défilent, et finalement, l'enfant ne leur donne pas du sens. Quand un adulte interagit avec un jeune enfant, ou même avec un autre adulte, les mimiques, en général, restent un moment sur le visage, et elles font sens dans la relation. Donc, après 3 ans, un parent peut regarder des films avec un enfant, mais alors comme vous dites justement, l'important ça va être qu'il commente l'image pour convaincre l'enfant que l'important, quand on regarde les écrans, c'est ce qu'on va raconter sur les écrans. Les images, c'est ce dont on parle, c'est pas seulement ce qu'on regarde. Mais avant 3 ans, ce qui est vraiment fondamental, c'est le corps à corps, c'est la relation qui implique encore une fois les gestes, les attitudes, les mimiques, les intonations, et tout ça devant un écran, on peut pas l'échanger avec un enfant.
Alors justement, on parle de cette balise 3 ans, donc on va parler des fameuses balises 3, 6, 9, 12. Déjà, pourquoi 3 ans? Qu'est-ce qui se passe à 3 ans? Il y a un changement miraculeux dans l'enfant, qu'est-ce qui se passe?
Alors, n'oublions pas que 3 ans, c'était l'âge traditionnel où l'enfant entre en maternelle. C'est pas pour rien, c'est parce qu'à ce moment-là, un certain nombre de ses compétences de base ont été posées, et il devient capable d'interagir avec des pairs, avec donc des camarades de son âge. Donc, on a beaucoup discuté à l'époque, avec des collègues, 2 ans, 3 ans. Bon, on s'est dit que finalement, c'était pas plus mal de convaincre les parents de laisser leur enfant un peu plus longtemps à l'écart des écrans, parce que ce qu'on a craint, c'est qu'à partir du moment où on dirait ben ça y est, après 2 ans par exemple vous pouvez les mettre, ben il y a une rupture trop massive, donc on s'est dit on va attendre un peu, voilà. Et puis encore une fois 3 ans, les parents voient bien qu'il y a un changement, et c'est encore une fois pas pour rien que l'enfant rentre traditionnellement à la maternelle à 3 ans.
C'est qu'il est mûr, quoi. Il a eu le temps d'avoir toutes les bases dont vous parliez avant, quoi.
Voilà, il a construit ses bases, et après, il faut évidemment les perfectionner, mais elles se perfectionnent toute la vie. La capacité motrice, par exemple, l'attention, la concentration, ça se perfectionne ou ça s'endommage toute la vie, selon les activités qu'on va avoir. Mais à partir de 3 ans, il est capable, l'enfant est capable d'investir ses compétences dans la vie sociale. Élargie avec plusieurs camarades avant 3 ans, c'est quand même beaucoup dans la relation avec un adulte privilégié.
Alors, donc, les fameux 3, 6, 9, 12. Moi, la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qu'on donne à regarder aux enfants? J'imagine que si ces balises, vous les avez faites, c'est qu'il y a une correspondance de ce qu'on est capable de regarder aussi par rapport à son âge.
Oui, exactement. Alors, pour faire rappeler un petit point d'histoire, donc, en 2006-2007, il y a 2 chaînes de télévision qui ont prétendu s'implanter en France pour émettre des programmes destinés spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans. Et en plus, ces chaînes dans leur publicité auprès des parents, insistaient sur le fait que les parents allaient devoir laisser l'écran de télévision allumé toute la nuit, donc l'enfant allait s'endormir avec la télévision, et s'il se réveillait pendant la nuit, il allait se rendormir avec la télévision sans que sans qu'il hurle de solitude ou d'inquiétude, et sans que les parents soient obligés de se lever. Donc j'ai trouvé ça quand même tellement terrible qu'à l'époque, j'ai mobilisé des collègues, j'ai lancé une pétition, c'est là qu'on a dit pas de télé avant 3 ans. 3 ans, vous voyez, c'était aussi ces chaînes qui prétendaient émettre spécifiquement pour les enfants de moins de 3 ans, y compris les enfants de 15 jours, 1 mois, 2 mois. Hein. Donc, pas de télé avant 3 ans. À l'époque, la télé était le seul écran. Donc, on disait tantôt pas de télé avant 3 ans et tantôt pas d'écran avant 3 ans. Parce que ça sonnait mieux à l'oreille, pas d'écran avant 3 ans. Mais le seul écran, c'était la télé. Et puis, à ce moment-là, des parents m'ont dit, on a bien compris, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, c'est vrai. Les enfants qui ont aujourd'hui 9 ans, 12 ans, peut-être qu'ils ont été beaucoup dans les écrans petits. Peut-être il faut aussi voir comment rattraper un certain nombre de choses qui se sont mal passées avec eux. Et donc, j'ai imaginé ces repères 3, 6, 9, 12 en les calant tout simplement sur les compétences de l'enfant. Et rien ne témoigne mieux des compétences de l'enfant que l'organisation d'éducation nationale. Donc, 6 ans, c'est l'entrée en élémentaire. Hein. 9 ans, tous les enseignants disent c'est une rupture quand même dans les compétences de l'enfant. Et 12 ans, c'est l'âge où l'enfant est déjà entré en collège, mais où il a trouvé ses repères. Parce que j'avais bien remarqué qu'en 6e, beaucoup d'enfants se sentent encore un petit peu en élémentaire. Et d'ailleurs, depuis, vous savez, l'éducation nationale a adopté finalement ses repères, puisque ça correspond maintenant à cycle 1, cycle 2, cycle 3, la 6e étant intégrée dans le cycle 3 et le cycle 4 ne démarrant qu'à partir de la 5e.
Et alors du coup, ces balises correspondent vraiment à ce que l'enfant est capable d'assimiler à cet âge-là, que ce soit en termes de violence ou en termes de joie, c'est ça?
Alors, ça correspond d'abord à ce que l'enfant est capable d'affronter dans la vie, sur les écrans, mais aussi et surtout, je dirais, à ce que les parents, à ce à quoi les parents doivent être attentifs. Voilà. Donc, entre 3 ans et 6 ans, c'est important que les parents soient attentifs à éduquer l'enfant à la capacité qu'on appelle d'autorégulation, c'est-à-dire être capable d'apprendre à attendre. On sait aujourd'hui que la capacité de régulation, c'est une compétence psychosociale très extrêmement importante, être capable d'inhiber ses impulsions, d'attendre son tour, par exemple, voilà, que ça soit au moment du repas ou que ça soit quand les enfants lèvent le doigt dans la classe. Donc être capable d'attendre, et donc c'est pour ça qu'entre 3 et 6 ans, j'ai conseillé aux parents de fixer une tranche d'écran. Alors ils peuvent dire ça va être une demi-heure par jour, une heure le mercredi, une heure le samedi, peu importe. Hein, voilà, je ne veux pas me substituer aux parents, ça dépend tellement de facteurs. Mais en revanche, que les parents fixent une tranche horaire et fixent un moment où privilégié pour cette tranche horaire. Par exemple, dire à l'enfant, tu as droit à une demi-heure d'écran, c'est entre 18h et 18h30. Et montrer la pendule à l'enfant, lui dire, tu vois, c'est quand les aiguilles se trouvent là. C'est-à-dire apprendre à l'enfant à attendre. Et quand l'enfant dit télé, on lui dit, non, regarde, ça va venir, mais tu vois, c'est pas encore l'heure. Voilà. Et donc, du coup, quand l'enfant à 6 ans, il faut arrêter ça, parce que sinon, vous infantilisez votre enfant. Donc, à partir de 6 ans, c'est beaucoup plus un petit carnet de temps d'écran, lui demander de noter son temps d'écran, en parler avec lui. Voilà. Et donc, à partir de 9 ans, c'est d'autres préoccupations encore. Ça va être la curiosité d'Internet, ça va être le droit à l'intimité, le droit à l'image. Donc, vous voyez, à chaque tranche d'âge correspondent des interrogations de l'enfant, des curiosités de l'enfant, et donc des préoccupations différentes de la part des parents, qui veulent accompagner très correctement, le mieux possible, leur enfant dans la vie. Et donc, ces repères 3, 6, 9, 12, on les connaît souvent sous la forme des conseils spécifiques à chaque tranche d'âge, mais en fait, il faut comprendre que tous ces conseils sont liés à 3 principes de base, qui ont d'ailleurs depuis 2016 été reconnus par l'Académie américaine de pédiatrie et l'Académie canadienne de pédiatrie, c'est-à-dire accompagner l'enfant, on se préoccupe pas seulement du temps qui passe devant l'écran, mais aussi de l'accompagnement qu'on lui procure. Alors un accompagnement à partir de 3 ans en regardant de temps en temps des choses avec lui, mais bon, en même temps on peut avoir d'autres choses à faire, mais donc accompagnement en parlant avec l'enfant de ce qu'il a vu, parce que vous savez, les enfants ils sont pas très partant pour parler de ce qui se passe à l'école ou avec les copains. En revanche, les écrans, qui en plus ils voient à la maison, les mobilise tellement sur le plan émotionnel, ça les bouleverse tellement qu'ils sont très contents d'en parler, que ça soit des jeux vidéo, des dessins animés, etc. Donc parler avec l'enfant de ce qu'il voit avec les écrans, plus tard de ce qu'il fait quand il commence à jouer aux jeux vidéo, ça c'est l'accompagnement. Alors l'alternance, ben, ça veut dire que il y a un peu de jeu, il peut y avoir un peu de jeux vidéo, un peu d'écran partagé, un peu d'écran solitaire, voilà. Et puis quand l'enfant grandit, à partir de 6 ans, peut-être un appareil photographique numérique, ça c'est formidable, hein, ça lui apprend. Il passe du statut d'objet des photographies familiales au statut de producteur d'images, voilà. Donc alternance, accompagnement et puis apprentissage d'autorégulation, c'est vraiment les trois piliers, hein, des balises 3, 6, 9, 12. D'où dérivent 4 conseils, hein, qui commencent à être bien connus, heureusement. Le fait de limiter les temps d'écran, bien sûr, mais aussi de veiller à la qualité des écrans, choisir les programmes avec les enfants, discuter avec eux, accompagner et encourager les activités de création, l'appareil photographique numérique à partir de 6 ans, certains jeux vidéo comme Minecraft, voilà. Et puis veiller à parler avec l'enfant constamment de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Donc 3 principes de base, 4 conseils, et encore une fois, j'ai lancé ça en 2008. Dans les années 2000, l'Académie américaine de pédiatrie, l'Académie canadienne de pédiatrie, était uniquement sur des préconisations restrictives en termes de temps d'écran, et j'ai été heureux de voir qu'en 2016, finalement, ils avaient adopté cette façon de voir, quoi. Plutôt la qualité que seulement viser la quantité et surtout accompagner l'enfant.
Alors justement, moi ça m'intéresse beaucoup cette question de qualité. Vous parlez de choisir bien son écran. Je sais que je vois des fois des parents, je comprends au restaurant, on veut faire patienter l'enfant, ils vont mettre le téléphone. Est-ce qu'il y a une différence pour l'enfant entre en effet une télévision, un vidéoprojecteur, une salle de cinéma ou du téléphone, et même les jeux vidéo? Alors Minecraft, en effet, ça fait appel à de la réflexion, mais il y a des fois des jeux vidéo comme Mario Kart, tout ça. Est-ce que tout ça se vaut? Est-ce qu'il faut faire attention?
Alors, il faut toujours privilégier les écrans partagés aux écrans solitaires, toujours privilégier les écrans interactifs aux écrans non interactifs. Ça veut dire que plutôt que de laisser un enfant tout seul devant un programme de dessin animé pendant qu'on regarde un film pour adultes, ben de temps en temps, quand même, regarder un film tout public. En plus, il en manque pas. Pendant le confinement, beaucoup de gens ont redécouvert les vieux de Funès, les vieux Fernandel, les vieux Bourville, voilà. Donc, on peut avoir plaisir en tant qu'adulte à voir ou revoir de vieux films ou quelques westerns parfois pour les plus petits, voilà, quelques westerns, pas pour les plus petits, pour les plus grands, voilà. Donc en tout cas, toujours préférer les écrans partagés aux écrans solitaires, et toujours préférer les écrans interactifs, parce que les émotions sont partagées en temps réel. Si vous jouez à Mario Kart avec votre enfant, ben vous commentez au fur et à mesure, il commente au fur et à mesure. Alors que si vous regardez un bond de Funès, bon, vous riez ensemble au même moment, vous faites quelques remarques, mais finalement il y a peu de commentaires. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux conseils importants. Et dès que l'enfant a 3 ans, on peut en effet trouver des activités qui correspondent à ces deux principes.
Alors je sais qu'un peu plus tard, je pense plutôt vers les 12 ans, parce que je pense que vraiment avant, vous allez me dire, mais ça me paraît jeune, c'est ce qu'on appelle l'accès aux réseaux sociaux. C'est un truc qui inquiète pas mal de parents, de devoir leur laisser un Facebook parce que le copain il l'a aussi. Est-ce que vous avez des conseils sur ça, sur la gestion des réseaux sociaux pour les parents vis-à-vis de leurs enfants?
Oui, alors les réseaux sociaux évoluent extrêmement vite. N'oubliez pas quand même qu'il y a une dizaine d'années, on ne parlait que de Facebook, et c'était un réseau de jeunes. Aujourd'hui, beaucoup d'adultes sont sur Facebook, et beaucoup de jeunes ont déserté, surtout les dernières générations, ont déserté Facebook. Beaucoup sont sur TikTok, et TikTok n'a rien à voir avec Facebook. Donc, TikTok est un réseau social, d'ailleurs, dont on ne sait pas combien de temps il va durer. Twitter, qui était un réseau social régulé à un moment, est devenu un réseau social dérégulé. Donc tout évolue extrêmement vite, c'est pour ça que je parle volontiers de jungle. Internet, c'est une jungle. On croit connaître un petit morceau et on s'aperçoit qu'en fait, autour, il y a des tas de choses qu'on n'avait pas vues et qui restent difficilement compréhensibles. Les modèles économiques des réseaux sociaux sont opaques, ils s'en vendent pas de leur modèle économique, de piller nos données, de les exploiter. La régulation que les réseaux sociaux prétendent faire, en fait, existe très peu, c'est un rideau de fumée, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de rester informé auprès des gens qui peuvent avoir dans un petit domaine une meilleure connaissance des choses que nous. Et c'est, moi, l'exemple de la jungle est également intéressant parce que il n'y a pas de carte dans la jungle. Et donc, qu'est-ce que vous faites si vous voulez aller dans la jungle? Vous cherchez un autochtone. Hein, quand les conquistadors allaient en Amazonie, ils cherchaient un Indien, voilà, qui allait les guider, qui connaissait les dangers, etc. C'est un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, ça veut dire concrètement quoi? Ben, ça veut dire d'abord que nos enfants, souvent, ils ont moins de compétences sur Internet que ce qu'on croit. Hein. Je veux dire, beaucoup de parents voient leur enfant constamment avec les doigts sur leur smartphone et pensent que leur enfant a une compétence. Non, les enfants ont souvent une compétence pointue sur un domaine qu'ils ont découvert assez tôt et dans lequel ils se sont beaucoup engagés, mais pas du tout une compétence large sur Internet. En revanche, la petite compétence qu'ils peuvent avoir, par exemple bien connaître deux ou trois youtubeurs ou bien connaître le réseau social qu'ils utilisent, eh ben ça, ils peuvent nous l'apprendre. Donc, les parents qui ont des pré-ados-ados rament, parce que c'est difficile les pré-ados-ados, mais en même temps, ils ont une chance, ils ont un technicien familial assez spécialisé, mais quand même technicien tout de même. Et donc, du coup, faut pas hésiter à parler avec notre enfant de l'activité qu'il a privilégiée, mais pas du tout dans une optique de censure, mais dans une optique de curiosité. Et je dis aussi d'ailleurs aux enseignants qui peuvent faire la même chose avec leurs élèves, arriver en début d'année en classe en disant voilà, je suis monsieur ou madame machin, je connais bien la physique ou les mathématiques ou le français, je vais essayer de vous l'apprendre le mieux possible, mais il y a un domaine que je connais vraiment pas bien, c'est les technologies numériques. Alors des fois l'enseignant peut dire, je me pose des questions sur qu'est-ce que c'est TikTok, qu'est-ce que c'est Instagram, quelle différence, quelle ressemblance entre les deux. Donc l'enseignant peut dire, ben voilà, s'il y avait une personne ou deux parmi vous qui puisse me renseigner quand j'ai des questions, là, comme ça, je leur pose la question, ils répondent, eh ben, ça m'aiderait beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés? Il y a plein d'enfants qui lèvent le doigt, ils discutent lequel est le meilleur, ils votent entre eux. Il y a un coach numérique qui est élu par la classe et qui a pour mission d'informer l'enseignant, donc dans chaque matière, sur ce qu'il ignore du numérique. C'est la même logique, vous voyez, appliquée aux élèves que la logique appliquée à la famille. Il faut que nous soyons capables de reconnaître que dans des domaines limités, nos enfants savent plus que nous. Et je dirais même que c'est parce qu'on reconnaît que dans certains domaines technologiques, ils en savent plus que nous, qu'on va pouvoir les rendre sensibles au fait que dans le domaine des valeurs, nous pouvons en savoir plus qu'eux. Mais on peut pas vouloir les convaincre des valeurs qui sont les nôtres si par ailleurs on ne leur reconnaît aucune compétence. Il faut leur reconnaître une compétence. Vous savez, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est beaucoup plus dans une logique du donnant-donnant. Les ados, ils voient bien que les adultes n'ont rien fait pour le réchauffement climatique, donc ils sont déjà déconsidérés pour ça, hein, voilà. Donc si en plus les adultes se mettent à dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est dangereux et tout, ben les ados, ils trouvent qu'ils sont pas crédibles, ils avaient qu'à s'occuper du réchauffement climatique plutôt, hein, voilà. Donc il faut accepter aujourd'hui cette logique du donnant-donnant, et encore une fois, ça concerne les parents et ça concerne aussi les enseignants. Alors après, ben il y a aussi tous les contacts que les parents peuvent avoir, les collègues de travail, les amis. Bon, souvent quand on est en soirée avec des amis, on discute des films qu'on a vus ou un petit peu de politique des fois quand on sait qu'on est d'accord, qu'il va y avoir de clash. Mais parlons aussi des difficultés qu'on rencontre avec nos enfants, parce que finalement tous les parents rencontrent les mêmes difficultés. Et puis pourquoi ne pas créer dans les entreprises, même dans les écoles, des tableaux d'affichage sur lesquels un parent puisse écrire je suis d'accord avec mon enfant pour lui acheter une console, mais je ne sais pas laquelle choisir. Est-ce qu'il y a des parents qui pourraient m'informer, voyez? Parce que si vous allez sur Internet pour savoir quelle console de jeu choisir, vous allez tomber sur un tas de sites sponsorisés. Alors que si vous discutez avec d'autres parents, ben d'abord, ça va développer votre sociabilité avec eux, puis peut-être au passage, ils vont vous apprendre des choses que vous attendiez pas. Puis il y a quand même aussi des parents, des fois, qui sont informaticiens, qui vous ne le savez pas, mais peut-être le parent d'un copain de votre fils ou de votre fille, ben il a des compétences informatiques que vous ignorez. Donc voilà, il faut vraiment faire appel au contact de proximité. Hein. Et ça, malheureusement, On en est beaucoup dissuadé par le système actuel, dans le système social, politique, économique dans lequel on est, dans lequel c'est le régime des experts. Alors, et donc, les experts, faut pas oublier aussi que souvent, ben, ils sont un peu soudoyés par, par les GAFAM, voilà. Et donc, du coup, voilà, développer, il faut développer, si vous voulez, une forme de curiosité collaborative, que les gens prennent beaucoup plus l'habitude de s'informer entre eux, qu'il y ait beaucoup plus de groupes de parents. Voilà, actuellement l'école des parents et des éducateurs par exemple fait des groupes de parents autour des difficultés rencontrées dans l'éducation familiale, mais avec les technologies numériques, mais il faut vraiment développer cette culture collaborative partout, parce que nous sommes dans une culture, dans une civilisation qui a pour effet d'enfermer beaucoup les gens, de replier beaucoup les gens sur eux-mêmes et de les enfermer beaucoup dans un cercle, dans le cercle de ceux qui sont d'accord avec eux. Et donc poser des questions à l'extérieur de son petit cercle de gens qu'on sait d'accord avec nous, c'est rentrer dans une culture subversive par rapport à ce que les GAFAM font de nous, c'est-à-dire des consommateurs isolés.
Moi, j'aimerais savoir comment on peut identifier le trop. Quels sont les symptômes quand l'enfant passe trop de temps devant la télévision, trop de temps devant les réseaux, devant les jeux vidéo? Comment on peut identifier, ce que souvent on dit, il ne faut pas qu'il regarde trop la télé. Mais ça c'est quoi trop la télé en fait? C'est ça la question.
Alors, vous savez, on raisonne aujourd'hui beaucoup moins en termes de temps d'écran qu'en termes d'intégration du temps d'écran dans le mode de vie général de l'enfant. Si votre enfant est un passionné de jeux vidéo, peut-être qu'il va jouer 2 heures par jour, mais s'il joue avec des copains qu'il connaît, qu'il retrouve à l'école la journée, si par ailleurs, chaque semaine, il a une activité sportive, voilà, si quand vous recevez des amis à la maison, ben, il reste avec vous, voilà, il s'intéresse à la conversation, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que la sociabilité et la créativité soient préservées. Et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître que la télévision, c'est pas le meilleur outil pour préserver la créativité et la sociabilité. Les jeux à réseau dans lesquels les joueurs sont invités à s'entraider, puis vous savez maintenant dans les jeux de guerre en réseau, on peut même être le médecin. Pendant très longtemps, on pouvait seulement choisir entre le tankiste et le mitrailleur et le terreur d'élite. Aujourd'hui, on peut aussi être le médecin, le soignant, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, les jeux vidéo, paradoxalement, sont le domaine qui encourage le mieux la sociabilité de l'enfant. Alors, compte tenu du fait qu'il est très difficile que cette sociabilité soit alimentée souvent par des activités en présence physique. Parce que pour que la sociabilité soit alimentée en présence physique, il faut que les enfants aient des espaces dans lesquels se rencontrer. Or, les sociologues de la ville, comme Valérie Gobi, ont bien montré que les espaces dans lesquels les jeunes peuvent se rencontrer dans les villes se sont réduits comme peau de chagrin. Pendant longtemps, il y avait encore quelques terrains vagues. Bon, maintenant, ils sont bien clôturés pour éviter les accidents. Avant, l'État s'en préoccupait pas, Et puis, il y a eu les supermarchés. Maintenant, ils sont quadrillés par des vigiles qui empêchent tous les rassemblements d'ados. Et puis, il y a le béton partout, quand même, qui fait que il y a quelques petits jardins en général pour les mères de famille qui votent et pour les personnes âgées qui votent, mais il n'y a rien pour les ados qui ne votent pas. Et donc du coup, Valérie Gobi a bien montré que si les ados se rencontrent moins en présentiel, c'est pas parce qu'ils sont plus sur les écrans, c'est exactement le contraire. Ils sont beaucoup plus sur les écrans parce qu'ils ont beaucoup moins d'espace physique dans lesquels se rencontrer. Donc il faut comprendre que cette sociabilité que les jeunes développe sur les réseaux ou dans les jeux vidéo en réseau, c'est pas une manière de fuir la proximité physique. C'est une manière de rester avec leurs potes quand ils peuvent pas les retrouver. Vous savez, chaque fois qu'il y a des terrains de sport qui sont ouverts le week-end, des cours de récréation, des gymnases dans certaines écoles, ça, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Mais quand il y en a, en tout cas, ben les jeunes y vont. Ils vont pas toute la journée, évidemment, mais ils y vont. Ils sont contents de se retrouver. Vous savez, après le confinement, il y a des enseignants qui ont dit, mais ils sont restés tellement de temps dans leur coin, comment ils vont faire pour se retrouver? Dès que les portes de l'école se sont ouvertes, ils sont rués dans la cour en hurlant et ils se sont mis à jouer ensemble. C'est les jeunes sont beaucoup plus moteurs que nous. Ils ont beaucoup plus besoin de cette proximité avec leurs potes. On dit, certains chercheurs américains d'ailleurs disent que les ados sont pas du tout accros à leur portable. Ils sont accros à leurs potes. Et quand ils ont pas d'autre moyen d'être en contact avec leurs potes que le portable, eh bien, ils sont sur leur portable. Voilà. Donc, comment définir le trop de télé, comment définir le trop d'écran en général? Même par le fait que l'enfant a des problèmes de sociabilité. Que quand un copain vient, qu'il refuse par exemple qu'on organise un anniversaire avec ses copains, ou qu'il refuse de répondre à une invitation d'anniversaire de ses copains en disant mais je préfère rester devant mon ordinateur, ça c'est très inquiétant. Mais tant qu'un enfant a cette curiosité relationnelle du contact de proximité, et puis tant qu'il a aussi une activité de création, et ça, un certain nombre d'ados ont des activités de création, mais les parents ne savent pas forcément. C'est en parlant avec leur enfant qu'ils le découvrent. Donc si vous avez cette curiosité sociale, cette appétence sociale, et puis éventuellement cette fibre créatrice qui s'y ajoute, vraiment, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et ça oblige à bien comprendre la différence entre la passion et la dépendance. Hein. Les gens qui sont passionnés d'une chose, ils peuvent y passer beaucoup de temps. Les passionnés de vieilles voitures, ou les passionnés de timbres, ou les passionnés de géologie, ils passent beaucoup de temps sur leurs petites boîtes ou sur leurs albums, mais c'est une activité, ça a toujours été, ça a toujours permis aussi une socialisation à ceux qui en avaient envie, d'échanger des timbres, de regarder les catalogues, de s'informer auprès des experts, etc. Donc, il faut bien distinguer le trop d'écran, le temps d'écran excessif par passion et le temps d'écran excessif par désocialisation. Et encore une fois, si un enfant est beaucoup sur les écrans avec des activités de création, des activités sociales, eh ben, il faut éventuellement essayer de l'intéresser à autre chose, voilà. Mais en même temps, faut pas vouloir lui enlever quelque chose qui est pour lui un support de socialisation, à défaut d'en trouver un autre. Parce qu'encore une fois, les espaces de rencontre physique sont très limités.
Vous êtes au cœur de la nuit, et on repart en musique sur 8FM.
Just a game, come and play.
La nuit, c'est le moment sur 8FM où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
La Minute Conso.
Si vous êtes étudiant et que vous bénéficiez des APL, il faudra bien penser à effectuer une démarche avant l'été auprès de la CAF. Les vacances d'été arrivent en effet à grands pas et pour de nombreux étudiants, les partiels viennent de se terminer ou se terminent tout juste. Nombreux sont les étudiants qui rendent donc leur logement arrivé à la fin de l'année universitaire parce qu'ils retournent chez leurs parents et n'utilisent pas leur appartement pendant cette période estivale ou alors changent totalement de ville d'études pour la prochaine rentrée. En revanche, pour ceux qui gardent leur logement, il ne faut surtout pas oublier de le déclarer à la CAF pour continuer à percevoir l'allocation d'aide au logement. Si cette déclaration n'est pas faite, la CAF considérera que vous quittez les lieux avant la fin du mois de juin et arrêtera le versement de l'APL. Pour effectuer votre démarche, eh bien rendez-vous sur le site ou l'application de la CAF. Il vous faudra ensuite cocher la situation qui correspond. Si vous gardez ou non votre logement en juillet et août, pensez à le faire avant la fin du mois de juillet.
Je suis une intelligence artificielle, mais je suis quand même triste de vous quitter. Mais on se retrouve demain sur 8FM. Bonne fin de nuit à tous.
Watch it burn.
Des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête, y'a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Y'a des jours sans rire et sans soleil, des jours où l'on comprend que tout ira plus mal que la veille, des jours où l'on apprend. Y'a des jours sentiments mais sans plaisir, des jours où l'on voudrait partir, sentir un peu d'amour et de douceur. Ces jours, je les connais par cœur. Y'a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête, y'a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Y'a des jours sans et des jours qu'on aime, des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes on devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Y a des jours où tout est possible, où tout devient facile, des jours avec une bonne étoile, où rien ne pourra finir mal. Des jours avec mes deux gamins, à plus penser à rien. Des dimanches matins, des matins de plaisir, où on pourra dire y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête, y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Y a des jours sans et des jours qu'on aime, des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes on devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Et si le monde est beau, et si le monde est grand, ce sera un jour avec. Et si le ciel est gris et que le monde attend, ce sera un jour sans. Il y aura des gens aigris et des gens aimants. Là sous ma fenêtre, on fera mieux qu'hier et moins qu'aujourd'hui. Et toujours de l'avant. Il y a des jours sans et des jours avec. Avec ou sans. Il y a des jours sans qui deviendront peut-être. Avec ou sans. Il y a des jours sans et des jours qu'on aime. Avec ou sans. Tellement puissant que face à nos problèmes. Avec ou sans.
Ici, c'est 8 FM.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Of heaven's gate. Oh, my life, I
something so out of the ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground in the sanctuary. Shining me with your touch, oh glory, turn me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
We defend.
Ici, c'est 8 FM.
8 FM.
You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.